La voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Nos sens sont les antennes qui permettent d'établir les liens avec notre environnement minéral, végétal, animal et humain. La pédagogie Steiner considère l'enfant comme un être holistique, comme un mystère qu'il convient de révéler en l'accompagnant sans jugement. Le développement artistique et les activités manuelles font partie intégrante du quotidien des enfants. La place des parents est également prépondérante dans l'accompagnement des enfants. Dans cette troisième partie de l'émission La Voix du Kaizen, Philippe Perennes, professeur à l'école Steiner de Logelbach depuis 30 ans, partage avec nous son expérience de l'enseignement. Je reviens à l'histoire de la classe où le professeur va donc suivre ses élèves pendant 8 ans, donc il va les voir évoluer, il va lui-même évoluer aussi parce que pendant 8 ans c'est long, donc le professeur aussi a le temps de faire son propre chemin d'évolution. Et autour de la classe, vous disiez que gravitent plusieurs dizaines d'autres professeurs, mais aussi les parents. J'aimerais savoir quel est le rôle des parents pendant la scolarité de leurs enfants.
On ne peut pas éduquer des enfants tout seul. Le professeur le plus génial qui existe, il ne peut pas éduquer tout seul. On a besoin des autres. On a besoin des autres collègues. Si je fais un cours et que je m'occupe absolument pas du collègue qui va passer derrière ou qui est passé devant moi, comme ça, ça fait que je donne à l'enfant des tranches qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Toc, pendant une heure, il va avoir ça, et l'heure d'après, il va avoir autre chose, et il n'y a pas de lien. Non, ce qui est intéressant, c'est précisément qu'il y ait un lien entre les choses. Donc notre travail dans l'école, c'est de rester en lien les uns avec les autres. C'est-à-dire que moi, je sais ce que fait mon professeur d'anglais derrière, lui, il sait ce que je fais devant, etc., etc. Ça permet de gagner un temps fou. Dans le meilleur des cas. Vous êtes dans une période de grammaire avec les enfants. Vous étudiez le rapport entre le sujet et le verbe. Mais quand c'est fait dans le cours principal, mais ça peut être repris en anglais, ça peut être repris en allemand, ça peut être repris partout, ça peut être repris en eurythmie, ça peut être repris partout. Quelle économie qu'on peut faire. Donc, première chose, les professeurs doivent pouvoir travailler ensemble. Et c'est la chance que nous avons dans l'école Waldorf de nous donner les moyens de pouvoir collaborer les uns avec les autres. Au travers de réunions, nous avons quand même 3 heures de collège par semaine où nous sommes tous ensemble et où nous travaillons ensemble, plus des collèges particuliers, collèges des grandes classes qui se réunissent encore ou du jardin d'enfants, etc. Donc de multiples occasions. Nous rajoutons à ça, autant que nous le pouvons, des collèges d'intervenants, donc les collèges de professeurs qui interviennent juste autour d'une classe pour pouvoir parler de cette classe-là, harmoniser nos manières de faire, nos points de vue. Parce que à partir du moment où il y a des adultes cohérents autour, la cohérence des adultes met de la cohérence dans l'enfant. Si l'enfant est dans un monde éclaté autour de lui, il est éclaté à l'intérieur de lui. Parce que il imite, il reflète, il est un reflet du monde. Il n'est pas autre chose que le reflet de ce qu'il y a autour de lui. Et évidemment, il y a quelque chose en lui qui est profondément individuel. Mais ce profondément individuel, il peut être complètement éclaté parce qu'il n'y a pas de cohérence autour de lui et pas se révéler. Donc nous, professeurs, notre axe de travail, c'est on travaille les uns avec les autres. Donc ça, on le fait des heures et des heures. Chaque semaine, c'est fondamental. Mais c'est pas le tout. Si les professeurs travaillent de manière absolument cohérente, super, mais qu'ils ne travaillent pas avec les parents, comme ça, il y a quelque chose qui va pas. Alors, on peut très bien dire à la maison, bon, 2 et 2, ça fait 4. Et puis à l'école, on va lui dire 4, c'est quoi? Il y a quelque chose qui peut être franchement à côté, où on peut tirer à l'école dans une direction qui va être complètement opposée à la maison. Donc, il faut, et c'est indispensable, de travailler avec les parents aussi. Donc là, nous avons des réunions de parents au cours desquelles nous parlons toujours de ce que nous essayons de faire. Je dis bien essayons parce que on ne dit pas qu'on réussit à tous les coups, mais par contre, on essaye tous les jours. Ça, je peux vous le garantir. Et donc, de ce que nous essayons de faire, des objectifs que nous avons avec les enfants. Et ensuite, bien entendu, libre aux parents d'essayer de s'en saisir ou pas. Nous, on n'a pas à dire aux parents ce qu'ils ont à faire. On a à leur dire ce qu'on fait et ce qu'on aimerait pour les enfants. Et la plupart du temps, donc là j'en viens à votre dernière question, les parents sont des gens qui sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Quand ils viennent chez nous, la plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent avoir une implication dans cette éducation, comme ça. Ils ne laissent pas les enfants chez nous en disant « débrouillez-vous » d'une certaine manière. Ils nous les apportent et puis disent « maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble ?» Et donc, pour travailler ensemble, on a les réunions de parents, donc les professeurs intervenants plus les parents. On a des réunions individuelles où on rencontre les parents individuellement pour parler. Mais sans cette cohérence-là, on n'y arrive pas. Et on peut aller plus loin. Mais il y en a d'autres qui ont plus de liberté. Ils peuvent s'impliquer chacun à leur mesure. Ils peuvent être dans le conseil d'administration de l'école ou du conseil d'administration du jardin d'enfants ou le conseil d'administration de l'association immobilière ou des amis de la pédagogie, où ils peuvent s'impliquer dans X et X commissions qu'il y a, où ils peuvent juste une fois par an, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, juste le jour de la fête d'été, faire des crêpes avec les enfants pour vendre au profit de l'école. Enfin bref, il y a de la plus petite tâche jusqu'à des parents qui travaillent énormément, énormément, énormément pour l'école. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant sente « mon père, ma mère ne me met pas simplement à l'école là pour que je reçoive la pédagogie, mais il fait aussi vivre l'école ». Et ça, c'est extrêmement important, ce cercle-là, le cercle associatif.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Vous disiez, quand les parents arrivent ici, il s'agit de leur expliquer dans quel univers ils vont mettre leurs enfants. Qu'est-ce qu'il va se passer pendant tout ce cursus scolaire dans une école Steiner, Waldorf, pédagogie Waldorf. Donc, qu'est-ce qu'on va leur expliquer à ces parents? Voilà, je suis parent, j'arrive, j'ai entendu parler de la pédagogie Steiner. Je viens vous rencontrer, monsieur Pérennez, et dire, j'ai envie de mettre mon enfant ici.
Si on veut être très synthétique, et on ne le sera pas avec des parents, parce qu'il faut prendre les heures nécessaires. Après, quand on est à l'école, on est à l'école. C'est pas bon pour un enfant de changer d'école et de changer de pédagogie toutes les 30 secondes. Il faut absolument, quand on va, c'est pas un essai, on prend pas les enfants d'essai, on les prend ou on les prend pas. Donc on ne sera pas synthétique avec les parents, mais si je devais l'être, je dirais aux parents, ben voilà, nous, ce qu'on va chercher avec votre enfant, c'est à développer des savoir-faire, des habiletés, oui, des facultés, des capacités qui seront tout d'abord dans les membres, c'est-à-dire dans les mains, dans les doigts, dans les jambes, dans les pieds. On va lui apprendre au travers d'activités comme la couture, la peinture, le dessin, la musique, etc., à éveiller une sensibilité artistique qui va agir sur son réveil intérieur. Et quand il est réveillé intérieurement, tout est possible. Il n'y a pas de limite pour un enfant.
Une autre image que j'ai quand je pense à la pédagogie Waldorf, c'est cette notion d'évaluation. Et de ce que j'en sais ou de ce que j'en ai compris, ici, le système d'évaluation est différent.
Absolument. Nos élèves ne sont pas notés en fonction d'échelles abstraites ou les uns par rapport aux autres. Je dis ça en ce qui concerne toutes les petites classes, les classes moyennes, mais quand on arrive dans les grandes classes où les élèves sont progressivement préparés au bac de français, etc., là, les notations interviennent. Et c'est juste, puisqu'ils vont se retrouver dehors, confrontés. Il faut quand même qu'ils aient senti cette chose-là. Mais je parle pour les trois quarts de la scolarité. Il n'y a pas de notes. Parce que, comment dire, admettons, pure théorie comme ça, que nous considérions chaque enfant comme un mystère. Un mystère, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, comme ça. Et que nous donnions à ces mystères des devoirs de mathématiques à faire. Comme ça. Qu'est-ce qui me permet de donner une note à un enfant, comme ça, de le classer par rapport à un autre, dire toi t'es un 3, toi t'es un 4, toi t'es un 5, toi t'es un 10, waouh, super bien. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Comment va se ressentir un enfant qui va se retrouver classé, noté, catégorisé quelque part? Avec une note qui va le monter très haut ou au contraire le descendre très bas. Si on considère qu'un enfant est un mystère, on lui donne un devoir de mathématiques, il est incapable de répondre à 3 questions sur 20. D'abord, le professeur, il se pose des questions par rapport à lui-même. Il se dit, ai-je bien fait mon travail? Parce que quand on note un enfant, souvent, c'est le prof qui se note lui-même, soyons corrects. Je veux dire, c'est nous qui n'avons pas réussi à faire. Là, il y aurait de multiples exemples à donner où on n'a pas compris la nature de l'enfant et donc on le note parce qu'on n'a pas su lui apporter quelque chose. J'illustre, vous avez des enfants essentiellement visuels aujourd'hui. Donc leur moyen de connaissance, c'est la visualité. Mais il existe dans toutes les classes des enfants dont ce n'est pas la visualité, mais l'auditif qui est le moyen de connaissance. Et donc, si vous faites un cours qui est essentiellement visuel, un cours de géométrie, démonstration du théorème de Pythagore, des choses comme ça, vous montrez, je veux dire, ce n'est pas le moyen de connaissance. Le moyen de connaissance, c'est l'oreille, comme ça. Et donc, au bout de XX démonstrations, l'enfant n'a toujours pas compris. Mais le professeur n'a toujours pas compris non plus que l'enfant n'apprend pas avec les yeux, mais avec les oreilles, et qu'il va falloir qu'il, lui, il se casse la tête un tout petit peu différemment pour apporter le théorème de Pythagore auditivement. C'est des choses où, quand on note les enfants, d'abord, on se caractérise soi-même. Hein. La première chose, c'est nous. Est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi ? C'est pas tout à fait juste de donner une note à l'enfant qui appartient au professeur dans la réalité. Il y a quelque chose qui est un petit peu gênant si on accepte de remettre en question sa propre pédagogie. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui justifie le fait que l'on mette un enfant au-dessus d'un autre ? Rien. Rien. Donc la note, dans la mesure où elle ordonne les êtres, elle hiérarchise les êtres les uns par rapport aux autres, c'est quelque chose qu'on tend à éviter parce que ce n'est pas juste par rapport à la nature des enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vois dans la classe actuelle que j'ai, là, celle dans laquelle on se trouve, j'ai des enfants qui sont extrêmement vifs en calcul. Je n'ai pas écrit une équation au tableau qu'ils ont déjà le résultat, comme ça, formidable. Donc ça veut dire que quand je donne un devoir, quand j'ai fini d'écrire le devoir, ils ont fini de le faire en même temps et je n'exagère pas. Et il y en a d'autres dans la même classe, quand j'écris les devoirs au tableau, l'équation au tableau, il va bien leur falloir un petit quart d'heure ou 20 minutes pour en résoudre une. Formidable. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas doués, ça veut simplement dire d'un point de vue de sculpture, il y a encore plein de choses autour qu'il va falloir enlever pour qu'ils puissent accéder à cette partie d'eux-mêmes qui, comme tous les enfants, comprend les mathématiques. Nous sommes des mathématiques nous-mêmes, notre cœur, nos poumons, nos os, c'est des mathématiques. Donc tout le monde a les mathématiques. Seulement, il faut retirer des choses autour. Il y a pas mal de voiles qu'il va falloir retirer. Et là, formidable, plutôt que de dire on va les noter, on va les classer comme ça, mais ah, t'as fini. Ben, je suis très content parce que comme t'as fini, tiens, tu vas aller voir machin là-bas, là, comme ça, et tu lui fais pas son devoir, mais quand il te pose des questions, tu lui réponds. Comme ça. Et donc, un élève qui a parfaitement compris, c'est une pièce d'or dans une salle de classe. Parce que il développe la faculté d'expliquer à d'autres. Et je dois dire que là, il faut ravaler son orgueil très profondément, mais c'est comme ça. Il y a des élèves qui expliquent mieux que moi. Ils savent trouver les mots pour expliquer à l'autre. Je ne dis pas qu'il faut généraliser que les enfants, absolument pas. Mais dans des situations de différence de niveau comme ça, les enfants peuvent s'entraider les uns les autres quand on arrive, nous, à créer le climat qui le permet. Et ce climat, il n'est permis que s'il n'y a pas d'hiérarchisation.
C'est très intéressant parce qu'on est quand même dans une société pyramidale où on est tout le temps noté, classé, t'as un bon travail, t'as un mauvais métier. Et arriver dans l'école à ne pas mettre en place ce système hiérarchique, c'est un challenge.
Ce système hiérarchique, il a aussi ses limites, et on les voit aujourd'hui. Et si je vous pose la question maintenant, de quoi a besoin l'humanité ? Est-ce que la réponse, c'est des gens intelligents, de plus en plus performants ? Non, on en a de trop. Mais cette intelligence qui fait que la nature autour de nous, elle ne vit plus, que les animaux, n'en parlons pas, et que les êtres humains, ils sont ravalés à un rang qui est vraiment dégradant. Je veux dire, regardons ce qui se passe autour de nous. Les intelligences qui nous gouvernent, je ne parle pas politique, hein, je parle de tout le monde, moi y compris, c'est cette forme d'intelligence-là, stop. Ce qu'on a besoin, C'est ce dont le monde a besoin. C'est d'individus qui se comprennent les uns les autres, comme ça. C'est-à-dire qui savent se respecter et qui savent aller les uns vers les autres. Ça, on a besoin de cette intelligence, qui n'est pas une intelligence intellectuelle, mais qui est une intelligence du cœur. Et donc, comment mieux la cultiver que quand cette intelligence mathématique formidable est là, dire « tiens, va aider là-bas, comme ça ». Et donc, c'est une intelligence qui s'humanise au travers de forces du cœur. Et je vois des enfants de 12 ans ont cette capacité de mettre leur intelligence dans le cœur et de reprendre. Et ils ne s'énervent jamais les uns avec les autres. Et je vois la patience qu'ils peuvent développer pour se mettre à 2, à 3, à 4 autour d'un pauvre gars qui ne comprend rien du tout jusqu'à ce qu'il ait assimilé cette affaire-là. Et donc là, c'est plus quelque chose de vertical avec un 20, un 19, un 18, c'est quelque chose qui devient horizontal et qui fait que les enfants vont les uns vers les autres. Et c'est pas parce que tu comprends pas que t'es moins que quelque chose. Celui qui comprend pas, c'est une chance pour ceux qui comprennent. Parce qu'il permet à ceux qui comprennent, maintenant, de descendre leur intelligence dans le cœur, de devenir des pédagogues du cœur. D'une certaine manière. C'est une chance. Donc tout élève qui est en difficulté est une chance pour les autres, et pas le contraire. Donc si on le notait, on devrait lui mettre un 20 sur 20 à celui-là. Il est la chance, la chance des autres, pour le dire comme ça. Et donc, il n'est évidemment pas à mépriser, à juger, à ravaler à un rang inférieur. C'est un enfant qui est qui a les mêmes facultés que les autres. Elles sont juste cachées et il permet aux autres de révéler quelque chose. C'est des révélateurs, ces enfants-là.
Dans ce que j'entends, il y a donc différentes formes d'intelligence.
Tout à fait. On a... Donc, celle que l'on connaît ordinairement, c'est l'intelligence intellectuelle. Bon, d'accord, celle-là, il n'y a pas de problème. Elle nous permet de résoudre beaucoup de choses et sans elle, on ne serait pas grand-chose. Mais il existe d'autres formes d'intelligence. L'intelligence artistique, c'en est une. De mettre les couleurs les unes, c'est une forme d'intelligence particulière. On a une intelligence des membres, une intelligence du mouvement aussi. De pouvoir danser les uns avec les autres, c'est une forme d'intelligence collective, celle-là, qui fait que l'individu, il va faire certains pas qui vont s'harmoniser avec les autres, avec la musique, etc. Donc on a cette intelligence qui est dans la tête, on a cette intelligence du cœur qui s'exprime au niveau artistique, et on a une intelligence des pieds et des mains. À nous, pédagogues, de faire que cette intelligence cérébrale n'occulte pas complètement l'intelligence des pieds et des mains. Et dans une classe, les enfants qui sont pas doués dans un domaine sont ceux qui sont les plus doués dans l'autre domaine, comme ça. Et donc, quand l'intelligence elle est très éveillée dans la tête, souvent on a plus de difficultés avec le reste, avec les mains. Et quand elle est très éveillée dans les mains, souvent on a des difficultés. Et il s'agit de faire rencontrer les choses maintenant, progressivement. Et donc c'est encore un bon motif pour ne pas catégoriser les élèves, c'est que il faut regarder l'ensemble des élèves. Il n'y a pas d'élève qui n'ait aucun talent, rien du tout. Ça n'existe pas. Ça, je n'en ai jamais rencontré. Même les élèves qui sont les plus limités au niveau intellectuel, ce sont souvent ceux qui ont l'intelligence du cœur la plus grande. C'est ceux qui savent trouver ceux qui sont malheureux, c'est ceux qui savent leur parler, c'est ceux qui savent écouter. Une vertu de plus en plus rare aujourd'hui, des enfants qui savent écouter. Eh bien, peut-être ils n'ont pas encore développé toute cette intellectualité, mais ils ont cette intelligence-là.
Après 30 ans d'enseignement dans la pédagogie Waldorf, qu'est-ce que vous avez appris?
C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La principale chose, c'est pour moi à respecter le mystère de l'être humain. À pas lui coller des choses, à pas coller des jugements, etc. À respecter ce mystère et à essayer par tous les moyens à faire en sorte que le curieux continue à vivre dans l'enfant. Que la curiosité soit toujours présente en lui et puisse le mener vers ce qu'il doit découvrir.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.